Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et BFM Business y sera, bien sûr, comme chaque année, le cercle partenaire de cette émission chaque jeudi. Et Jean-Hervé, qui est co-auteur de La Grande Rupture, Réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Et Michael Zemmour, maître de conférence en économie à Paris, Panthéon, Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po, devenu l'un des économistes stars du sujet des retraites, puisqu'on vous a quand même très souvent consulté, dans la mesure où vous avez un mérite, c'est que vous bossez le sujet. Et c'est pas le cas de certains qui causent, qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs cette réforme. Qu'est-ce qu'on a entendu comme... Céline, faut-il... Est-ce que c'est mal les rachats d'actions ?
Déjà, on va peut-être juste rappeler ce que c'est.
Oui, exactement.
Donc, c'est un mécanisme par lequel, effectivement, une entreprise peut racheter ses propres actions. Et ce faisant, en fait, elle va, quelque part, faire monter le cours de l'action, puisque ce qui est rare devient plus cher. C'est un phénomène qu'on appelle la relution, donc, pour les experts, enfin, entre guillemets. Et donc, c'est un mécanisme qui est assez valorisé par les actionnaires, puisque, effectivement, c'est à long terme, ça va avoir un effet sur le cours de l'action. C'est un peu différent du dividende, parce que le dividende, c'est à court terme, alors que là, on est plus sur un effet de long terme. C'est un mécanisme qui est très plébiscité aux États-Unis, hein, puisque dans le mode de rémunération des actionnaires aux États-Unis, on doit être à peu près aux deux tiers, donc qui sont rémunérés via cette relution, alors que c'est à peu près un tiers en Europe. Et on a vu qu'en fait le phénomène prenait beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Alors c'était des entreprises comme Apple, par exemple, aux États-Unis, qui utilisaient beaucoup ce mécanisme. Et on voit que des entreprises comme Total, là, vont racheter pour 2 milliards leurs actions. Donc on voit que ça prend de l'ampleur. Et là, il y a une vraie question. Et même aux États-Unis, je sais que Joe Biden voulait, par exemple, relever l'imposition, justement, qui était associée à ces rachats d'actions, ramener le taux de 1% à 4%, il me semble. Donc, ce qui est quand même assez important.
C'est son intention. La taxe, elle date de janvier aux États-Unis.
Le problème de ça, c'est que c'est vrai que ça nous prive d'investissement, hein, puisque, effectivement, ce qu'on investit en rachat d'actions n'est pas investi en investissement. Et par ailleurs, on est dans la question du partage capital-travail aussi. Et donc, il faudrait sans doute redistribuer davantage. Donc, moi, j'allais dire, après, c'est des stratégies. C'est toujours compliqué, je trouve, de trop intervenir dans la stratégie de gestion d'une entreprise, parce qu'elle peut avoir des raisons à court terme d'opérer des rachats d'actions, hein, de diminuer son capital, de l'augmenter. Donc,
lesquels tu dis je fais du Nicolas Dose comme ce matin. Je suis farouchement opposé au rachat
d'actions.
Mais quelles sont les raisons qui sont dans la stratégie très profonde d'une entreprise, à part de faire monter le cours?
C'est soutenir le cours de son action pour envoyer un signal positif au marché, quoi. Enfin,
mais j'ai du mal, moi, à me faire une religion définitive sur cette. Bon, je considère que la bourse, c'est là pour ouvrir son capital et pour le faire grandir. Pas pour le faire maigrir, voilà. Et pour croître, normalement.
Bah, sauf si on veut, à un moment donné,
Mes amis, on ne peut pas tous les jours, expliquer que nous avons une transition écologique, que nous avons une transition environnementale, qu'il va falloir investir de manière massive sur ces sujets-là, auxquels je rajoute... Là, c'est ma spécialité, sur le vieillissement, évidemment, des coûts d'investissement massifs, parce qu'il va falloir complètement préparer ce choc du vieillissement qui va avoir lieu de manière très forte dans les années qui viennent. Tout ça suppose 5, 6, 7% de plus de PIB en investissement. Et à ce moment-là, on retire de la capacité d'investissement, une centaine de milliards d'euros, mais ça n'a aucun sens.
Le CAC 40, c'est 24 milliards de rachats d'actions en 2022. Hein. 24 milliards sur 142 milliards de profits. Aux États-Unis, on a dépassé les 1000 milliards de dollars.
Non, mais aux États-Unis,
le phénomène est
l'un des grands pays.
C'est une des explications entre la valorisation du marché boursier américain versus la France. Enfin, ça fait partie des
Donc, il y a un des grands pétroliers qui a annoncé 75 milliards sur 5 ans. L'un des grands pétroliers américains, je ne donne pas de nom, c'est l'un des très grands, parce que je ne sais plus, entre ExxonMobil et Chevron, je vois, j'ai un doute. Oui, Michael Zemmour.
Moi, je suis d'accord que ça apparaît pathologique, ces rachats d'actions. La question, c'est est-ce que c'est taxer les rachats d'actions la principale solution ? Il y a deux choses qui peuvent être le problème. Le premier problème, c'est s'il y a des entreprises qui ont trop d'argent, qui font des super profits, et c'est peut-être ces super profits qu'il faut taxer directement. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, il y a des besoins d'investissement, mais le plus probable, c'est que si on interdit les rachats d'actions, les entreprises vont faire d'autres opérations financières. Si on veut qu'elles investissent, peut-être qu'il faut organiser autrement la décision et notamment associer les salariés aux décisions d'investissement pour qu'il y ait des stratégies pas uniquement financières, mais de politique industrielle dans les entreprises.
Enfin, en tout cas, là, il ne s'agit pas de taxer, hein, il s'agit d'imposer.
Mais
jusqu'à un doublement de la participation à
Libre de l'Homme. Il y a eu un accord sur le partage de la valeur dans lequel il y avait des questions de distribuer des actions aux salariés, etc. Oui. Je crois qu'on a relevé le seuil de 30 à 40% donc, de distribution d'actions gratuites. Donc voilà, il y a quand même ce genre de mécanisme.
Mais l'idée, ce serait d'aller plus loin dans ces mécanismes lorsqu'il y a des années totalement exceptionnelles.
Oui, ça introduit aussi des différences entre salariés. Hein,
à mon avis, on est en train de dériver. Peut-être faut-il, il y a dans la sociologie d'un pays, l'envie d'investir ou de pas investir. On nous dit à juste titre que nous avons besoin, pour votre génération et celle qui suit, de manière massive de décarboner ce qui coûte évidemment très très cher. Je veux dire, on peut pas à la fois dire ça et se priver de la capacité que des entreprises qui sont faites en réalité de citoyens, il s'agit même pas d'augmenter la rémunération en premier des salariés, il s'agit d'abord de savoir si les entreprises sont des contributeurs à l'investissement. Relisez Max Weber, le capitalisme. Vous l'avez dit, je dis relisez, mais c'est une manière très amicale de vous parler. Lisez ou relisez Max Weber, le capitalisme, c'est fondamentalement la volonté d'investir. C'est ça le sujet majeur du fonctionnement d'une société capitaliste. Alors c'est très protestant, cette vision de ce monde pour faire progresser la société. Il se trouve aujourd'hui que la progression de la société passe par l'investissement dans la décarbonation. On peut pas. Enfin, je veux dire, c'est ça le fond du sujet. Alors après, on peut regarder s'il faut augmenter la participation, mais c'est un sujet secondaire par rapport à ça. Le sujet
la question du partage de la valeur, elle est importante au sein de l'entreprise.
Et là, il y a un accord interprofessionnel qui a été trouvé et qui, normalement, doit être transcrit mot pour mot dans la proposition de loi à venir.
Mais voilà. Je veux dire, pour moi, la question du partage de la valeur est quand même cruciale. Parce que là, vous parlez de la transition écologique, mais il y a d'autres questions. L'automatisation, je veux dire, le fait que.
Cher ami, je suis mille fois d'accord. Et comme je sors un bouquin qui porte uniquement sur la répartition, en expliquant qu'il faut évidemment la modifier parce que la part des profits a augmenté de manière trop forte pour la croissance. Mais je veux dire, laisser ce message, là on est sur des messages, donner le sentiment au fond que l'objectif premier d'une entreprise, c'est celle d'ailleurs de Friedman. Donc à ma connaissance, tu n'es pas friedmanienne. Donc,
ah mais moi, est-ce que j'ai dit à un moment donné,
la valorisation, je veux dire, c'est un discours qui dépasse largement celui de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'une société fait pour s'associer à la décarbonation.
Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'était une stratégie d'entreprise. Que c'était une stratégie d'entreprise et que c'était difficile en soi d'avoir un jugement définitif et péremptoire sur le fait qu'une entreprise à un moment donné rachète ses propres actions, c'est tout. Je veux dire, après je suis tout à fait d'accord, moi je plaide pour l'investissement, c'est évident.
J'avance, Leningman, merci monsieur Lorenzi au sujet des rachats d'actions. John écrit, si on arrête les rachats d'actions, on détériore la valorisation de nos entreprises. Et Arsène, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le rachat d'actions, les entreprises sans projet rendent l'argent aux investisseurs qui l'investissent où ils veulent, notamment dans les secteurs plus porteurs. L'argent ne s'envole pas dans l'espace. Il est réinvesti.
Je pense qu'on appelle investissement. Il est replacé, mais il n'est pas forcément investi.
Oui, replacé. Si vous rachetez d'autres actions d'une entreprise d'un secteur de demain,
de la transition écologique, par exemple, à ce moment-là, ça va financer des.
Non, si vous rachetez d'autres actions émises, le cours de l'action va augmenter.
Tout le monde sait que la France a un problème de financement de son économie réelle, que son taux d'investissement est insuffisant, qu'une large partie des entreprises, quand elles veulent se faire racheter, les petites boîtes qui sont les ETI, qui elles se tournent, pas en France, mais elles vont aux États-Unis, en Chine,
oui, mais
ou
là,
en Allemagne.
On pourrait invoquer les capital risqueurs, les business angels, etc., et le rôle de l'écosystème. Non, mais le rôle de l'écosystème de financement qui, justement, est peut-être trop petit par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis. Donc,
Il y a Fett qui me dit que racheter les actions libère de l'argent pour que les vendeurs de ces actions puissent les investir ailleurs. Mais ça dépend où. Bon, d'accord, ok.
Moi, je fais de la macroéconomie, pas sur l'entreprise, je me garde bien. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les interdits.
Ah, mais il ne s'agit pas de les interdire.
Non, je dis juste que le discours général doit être celui de la mobilisation d'une société, une mobilisation pour, pour ce qui est le projet de votre génération, c'est-à-dire celui de la transition écologique. C'est quand même pas d'une complexité extrême à comprendre. Et c'est clair que le rachat d'actions n'est pas un signal top sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est un problème qui ne porte pas sur telle ou telle entreprise. C'est un problème qui est, la société française veut-elle ou non investir dans son avenir?
Parmi les sujets éco hier évoqués par Emmanuel Macron, il y a le RSA. Emmanuel Macron ressort l'histoire des droits et des devoirs. Je ne sais plus qui a inventé la formule, je crois que c'est Sarkozy qui avait inventé cette formule. En parlant du RSA, avec l'idée que le travail doit payer plus que l'inactivité. Seulement, en théorie, l'idée d'imposer du travail en échange du RSA, entre 15 et 20 heures par semaine, elle est dans les tuyaux et elle doit être mise en musique par le projet France Travail. Comment vous avez regardé, enfin comment vous appréhendez ce sujet, Michaël Zemmour?
Il faudrait commencer par parler sérieusement du sujet et pas par dire des choses fausses. Le président de la République dit quelque chose de faux s'il a dit que le travail payait moins que l'inactivité.
Non, il a pas dit ça comme ça. Il a dit il faut pas que le sentiment s'installe que le travail paye moins.
Le sentiment. Donc il y a une étude de France Stratégie de 2019 qui montre que dans toutes les configurations familiales, quelqu'un qui vit au minima social gagne moins qu'en étant en activité, mais que depuis les années 2000, prendre une activité, ça ne protège pas ou moins qu'avant de la pauvreté. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, quand on reprend un emploi, on améliore son niveau de vie, donc on vit pas mieux aux minima sociaux, c'est pas vrai. Par contre, prendre un emploi ne protège pas de la pauvreté. Ça, c'est le premier point.
Pour un emploi peu qualifié.
Parce que souvent, justement...
Et pas à temps plein.
Mais c'est bien le problème. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que la politique qui va être mise en avant, c'est plutôt une politique de sanctions. Alors, d'abord, des sanctions sur le RSA, il y en a déjà. Chaque mois, il y a des personnes qui se voient suspendre les minima sociaux pour tout un tas de motifs et qui sont parfois des sanctions administratives. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études assez précises qui montrent que quand vous poussez à l'activation trop vite des personnes qui ont des fortes difficultés sociales pour des emplois à temps partiel de mauvaise qualité, vous allez en fait les maintenir plus longtemps dans la précarité plutôt que de leur laisser le temps de régler leurs problèmes de santé, de logement, de transport, et ensuite de trouver un emploi à temps plein, de qualité, qui leur permet de sortir de la précarité.
Ça veut dire qu'il faudra du cas par cas.
Ça veut dire qu'il faut laisser le temps et que le discours...
Ah mais laisser le temps, il y a ceux qui sont dans la situation que vous décrivez, ceux qui ne le sont pas, et donc au cas par cas, il faut...
Le discours du président de la République, qui est un discours à la fois de sanctions et de stigmatisation, est pas raisonnable vis-à-vis du sujet.
Ça m'a pas mal. Alors moi, je suis pas c'est France Stratégie que vous avez cité.
Oui, 2019.
Ce sujet m'intéresse parce que c'est vrai que l'arbitrage entre ce que rapporte le panier des aides sociales et ce que va rapporter un tout petit salaire, parce que justement, on est au salaire minimum, mais qu'on est à temps partiel, l'arbitrage peut quelquefois.
Je dis pas
qu'on gagnera plus sans travailler ou autant sans travailler, mais l'arbitrage peut raisonnablement et de manière rationnelle se faire chez quelqu'un. Je sais pas, moi je me souviens m'être retrouvé sur un plateau de télé à répondre pendant la crise des gilets jaunes à une mère de famille qui avait 3 enfants et qui expliquait que si elle devait travailler, il fallait qu'elle paye du transport, qu'elle se nourrisse à midi, qu'elle fasse garder ses enfants et à partir du moment où elle avait une rémunération, elle perdrait ceci, cela. Et l'arbitrage rationnel l'a poussé peut-être à tort à se dire que... À quoi bon?
Non. Alors, c'est pas à ça que répond le président de la République. Parce que la réponse à ce que vous dites, ça serait une augmentation des salaires. Il faut que
le SMIC déjà augmente plus que l'inflation en ce moment, puisqu'il a un mécanisme d'indexation. Il a un mécanisme d'indexation qui fait que comme il augmente sur la partie des 20% de l'inflation qui touche les plus pauvres, il aura pris au mois de juin si l'augmentation technique intervient plutôt que prévu. Car nous avons plus de 2% d'inflation entre la dernière augmentation de SMIC et la prochaine, on sera à peu près à plus 9%.
Le SMIC court après l'inflation, donc il la rattrape, elle le rattrape, etc. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat au niveau du SMIC en ce moment.
Ah ben si.
Il y a une indexation...
Il a pris 8% en un an, Michael. 8% en un an, il n'y a pas eu 8% d'inflation.
Justement, le mécanisme d'indexation dont vous parlez parle du pouvoir d'achat à ce niveau-là. Mais je voulais revenir sur le...
On va laisser réagir après. Mais allez, non, mais revenez sur ce que vous vouliez dire, allez-y.
Non, mais tout le discours en disant on va imposer du travail d'abord quel travail, dans quelles conditions.
Oui, d'accord.
Et le discours de dire il faut changer les minima sociaux, il faut sanctionner, c'est pas prendre le problème sérieusement. On a un problème de pauvreté, on a un problème de chômage, on a des problèmes de santé, de formation. C'est cela qu'il faut traiter dans leur ensemble. Et ça me paraît une façon extrêmement dangereuse d'aborder le sujet.
Céline, et puis ensuite Jean-Ravic, qui notamment avait un développement à nous faire mais voilà.
Oui, alors peut-être que là, je serais pas tout à fait d'accord. Disons que moi, je suis pas forcément opposée au fait que une rémunération soit la contrepartie d'un travail. Donc moi, c'est pas quelque chose qui en soi me choque, mais par contre, c'est la qualité de l'emploi, quel genre d'emploi, et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire des gens qui sont allocataires du RSA. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui déjà sont un peu éloignés de l'emploi. On risque de leur donner un emploi qui est qui est pas vraiment un emploi, qui est pas du tout une formation, qui est pas qualifiant. Et si je prends l'exemple de ce qui se passe dans des pays scandinaves, par exemple, ce qui est un peu la référence qu'on prend dans notre ouvrage.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement dans ces pays-là.
Dans ces pays-là, on a en fait des indemnisations à la fois du chômage et au-delà, en fait, une indemnisation post-activité qui est très généreuse pendant 3 ans, en fait, à 90% du salaire, parfois, dans certains pays. Alors, je ne sais plus si c'est Danemark ou c'est... En tout cas, on a des indemnisations très généreuses, mais en contrepartie, des formations qui sont intenses, importantes, et vraiment un suivi des gens pour qu'ils retrouvent un emploi. Donc, on met tout pour que la personne arrive à alterner des périodes, on va dire, d'activité, de chômage, mais qui sont des périodes en fait actives puisque de reconversion. Là, j'ai un peu peur qu'on soit dans un modèle à la française où en fait on va donner quelques heures de travail à faire mais qui ne seront pas du tout qualifiantes et qui vont en fait déboucher sur rien. Et ça me fait, enfin voilà, et ça, je reconnais que ça me fait un peu peur parce que moi, je voudrais vraiment que les gens retrouvent le chemin de l'emploi et je suis pas sûre que ce soit, bien que ce soit dans le discours.
C'est un peu de votre avis parce que je considère que le I de RMI et le A de RSA
ont
globalement échoué.
Ça sera un pansement.
Jean-Hervé Lorenzi.
Un tout petit peu d'optimisme, parce qu'en France, dès qu'on traite d'un sujet, on explique que c'est pas parfait, ce qui est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, en plus, l'anti-macronisme primaire, honnêtement, la conférence n'était pas bonne, Macron n'est pas la vérité absolue. Donc, si on peut discuter du sujet qui est notre sujet d'économiste. Il y a deux contre-vérités, à mon avis, assez fortes. La première, c'est que c'est pas tabou, là je suis d'accord avec Céline, de se dire que une incitation à travailler qui est plus ou moins forte. Michael, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais il n'y a pas suffisamment de différence entre le fait de travailler et le fait de ne pas travailler, c'est vrai. Alors, c'est, on peut trouver... Non, mais l'exemple...
Le minimum de l'IS est à 950 euros et ceux qui auront peut-être 1150 ou 1200 euros...
Ceci n'est pas du tout contradictoire avec l'idée qu'il y a une extrême pauvreté et maintenant une grande pauvreté des travailleurs non qualifiés, que les rémunérations sont extrêmement faibles. On est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, qu'il y ait dans cette affaire une incitation plus forte au travail, ça me paraît assez évident. Et c'est pas du tout impossible à obtenir, parce que quand je regarde ce qui est passé sur l'apprentissage, je veux dire, on est passé de 300 000 à peut-être 1 million cette année, et c'est finalement pas... Non, mais ça veut dire qu'on peut et faire évoluer les choses, je veux dire, et pas forcément en traitant tous les sujets de l'humanité de manière simultanée, parce que ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Mais... Attends, juste Céline. Oui. Deuxième contre-vérité, c'est l'idée que la majorité des gens qui ont le RSA sont des paresseux et ont une seule idée fixe d'être désassistés. Évidemment que non. Il y a le même pourcentage de paresseux chez les travailleurs très qualifiés, chez les travailleurs non qualifiés. Cette idée sur laquelle...
C'est difficile d'émettre une statistique sur la fainéantise.
Oui, sauf si, preuve...
Je sais que Pôle emploi avait fait des travaux...
Non, laissons Pôle emploi ce qu'il est, et prenons la charte TDTE.
Il avait fait des travaux sur...
de faire un travail là-dessus, qui revient à expliquer exactement ce dont on aurait besoin, en réalité, pour rééquilibrer nos comptes, les deux déficits majeurs, qui sont les déficits budgétaires et le déficit du commerce extérieur, et on s'aperçoit qu'il faudrait, en gros, avoir 7 à 8% de plus dans les 10 ans qui viennent.
8%
d'emplois à créer, ce qui est pas du tout impossible, et ça veut dire qu'on peut pas qualifier une société de flemmarde, ni d'ailleurs les gens qui sont au RSA, parce que à 7 à 8%, il y a toujours eu dans la vie, quand vous étiez en... Alors vous êtes jeune, c'était en CE1, et moi c'était en 11e, il y a toujours toujours eu 10 à 15% des gamins qui avaient envie de rien faire, 10 à 15% qui étaient des polars, et puis le reste qui sont nous, qui travaillons selon l'intérêt des choses, et plus ou moins. Donc cette idée de fainéantise est une idée absurde. Évidemment que la majorité des gens qui sont au RSA ont une seule idée fixe, c'est de resocialiser. Et il faut le faire intelligemment. Mais de là à dire qu'on peut pas en parler, ça me paraît... Laissons tomber Macron une seconde. On va pas tout centrer sur ce qu'il a dit hier. C'est normal qu'on en parle. Et dernier sujet, quand on regarde ce que ATD Quart Monde a lancé sur les territoires de suppression de l'emploi, c'est très malin. Évidemment que c'est très malin. Est-ce que ça peut être généralisé?
Vous pensez à quoi qui est très malin, Jean-Hervé?
C'est cette idée que on va activer les dépenses passives de chômage, c'est-à-dire que on va proposer
ça
à des gens...
Ça fait pas sur la table, ça fait des boum-boum.
Oui, oui, mais c'est parce que c'est la passion. C'est la passion. C'est la passion.
Non, mais les auditeurs se plaignent.
Oui, ils ont raison, ils ont raison. L'auditeur a toujours raison. Mais oui, donc c'est l'idée que on va activer, c'est prendre les dépenses de...
Ah, mais c'est les territoires zéro chômeur.
C'est les territoires zéro chômeur. Et c'est très très bien et très... Et c'est une manière assez habile de dire que le travail, c'est quand même salvateur pour tout le monde, mais évidemment.
Michel Zemmour.
Il y a derrière ça l'idée qu'il faudrait, vous l'avez dit, augmenter les incitations au travail. Et c'est une idée qui est évidemment centrale en économie, mais il y a des fois où il n'y a pas d'incitation, il y a des fois où il y en a. Une des questions majeures sur les minima sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a une catégorie de la population qui est exclue des minima sociaux, les jeunes de moins de 25 ans. Vous êtes jeune de moins de 25 ans, vous n'avez pas le droit au RSA. Pourquoi on le fait? Et donc, on maintient des jeunes volontairement dans la pauvreté. Et la raison de ça, c'est de dire, on ne veut pas les désinciter à travailler. Or, en faisant ça, on fait le choix de la pauvreté chez une partie des jeunes et on lui donne pas les moyens, à la jeunesse en question, de se former, de chercher un travail dans des bonnes conditions. Et il y a des études qui ont regardé, mais du coup, est-ce que le RSA désincite à travailler? Est-ce que quand on passe la barre de 25 ans où on a le droit au RSA, le taux d'emploi baisse? Et c'est absolument pas le cas. Et donc, en fait, on maintient, au nom des incitations à travailler, des gens dans la pauvreté pour de mauvaises raisons, parce que si on les soutenait davantage financièrement, au contraire, probablement que ces personnes-là pourraient se former et trouver un emploi dans des meilleures conditions.
Oui, mais pour moi, il faut qu'il y ait toujours cette optique de formation, parce que le problème, c'est qu'on risque de donner effectivement un RSA sans avoir vraiment de contrepartie et sans avoir de formation, et ce qui en fait ne reviendrait qu'à avoir une sorte de revenu universel, mais dans le sens revenu universel, qui serait vraiment finalement, certains ont le droit d'avoir des bons emplois, etc., et puis le reste, c'est une population subventionnée qui en fait ne progresse pas et stagne. Donc,
Bien sûr, mais quand vous vivez avec moins de 500 euros par mois,
ah oui, non, mais je dis pas que c'est la panacée, mais je veux dire, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait des espèces de contreparties, une formation contre un revenu, en fait.
On peut être d'accord tous les trois et le dire à Nicolas qu'il faut évidemment augmenter le RSA. Deux, il faut la sortir de formation, c'est-à-dire d'accompagnement.
Oui,
et puis on sera d'accord. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on sort? Parce que toi, tu sors toujours les études et moi, je sors le Danemark, qui est la merveilleuse illustration de ce qu'il faudrait faire. Et puis, vraisemblablement, élargir le RSA. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge, mais l'élargir à la jeunesse, je suis d'accord là-dessus.
Et puis bon, il faut quand même rappeler qu'en France, il y a dans certains secteurs des difficultés de recrutement, donc en plus, il faut vraiment faire en sorte, à mon avis, que les formations soient en accord avec les secteurs qui recrutent aussi.
La vraie réforme qui va être majeure, c'est la réforme des lycées professionnels. Il faut les réformer. La moitié des formations de cette nature sont extrêmement productives d'emploi. Les gamins qui sortent de là ont deux ou trois possibilités d'emploi. Et puis, il y a toute une partie, la moitié n'ont pas d'emploi à la sortie. Et ben, quand il n'y a pas d'emploi, à quoi ça sert de former des gens pour des jobs qui n'existent pas? Donc, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Pas facile, parce qu'il y a 20 000 professeurs qui font partie de ces catégories-là.
Et il faut aussi que les entreprises acceptent.
C'est pas facile.
Il faut aussi que les entreprises acceptent de faire plus de formation, parce qu'il est vrai qu'en France, on est quand même dans un système dans lequel l'entreprise attend quand même que le jeune ou le moins jeune arrive de façon totalement formée et fait peu de formation en entreprise, alors que dans d'autres pays, on peut arriver avec un diplôme en humanité et devenir,
Le Danemark.
Consultant. Non, mais pas que, d'ailleurs. Dans les pays anglo-saxons, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, le côté où l'entreprise vraiment met les moyens de la formation. En France, on attend des gens hyper formés, expérimentés, qui ont suivi telle filière, etc. Donc, il faut ça aussi, donner les moyens aux entreprises.
Il y avait un projet d'Emmanuel Macron, une sorte de salaire universel, là. je ne sais plus comment il s'appelait, mais il n'a jamais vu le jour.
Le revenu universel, quand
on dit revenu universel, il y a beaucoup de concepts. Il y a 25 concepts derrière. On peut aller jusqu'à carrément l'impôt négatif, pourquoi pas. Bon, mais c'est un sujet complexe. À mon avis, on y viendra un jour. Mais à 2 minutes 50.
Je lisais votre bandeau à l'instant. Il y a marqué RSA, les allocataires devront faire 15 à 20 heures par semaine. C'est pas vrai. C'est une formule. On n'a absolument pas ni les moyens, ni la logistique, ni les activités.
Ça, je sais qu'on n'a pas les moyens. Oui.
Donc, c'est des déclarations en l'air qui visent à mettre le soupçon sur le fait que les personnes au RSA ne veulent pas travailler. S'il y avait des emplois en face, l'immense majorité de ces personnes ne seraient pas au RSA. Ou alors, si elles y sont, c'est qu'elles ont d'autres problèmes à régler d'abord.
Non, c'est vrai que c'est le projet, c'est d'imposer des heures de travail. On sait qu'effectivement, les dispositifs du futur France Travail ne sont pas du tout opérationnels pour ça.
Il ne faut absolument pas donner le sentiment que les gens qui sont au chômage le sont par plaisir. L'immense majorité ne souhaite qu'une seule chose, c'est se resocialiser. Mais il est vrai que on sait aussi, puisque cher Michael, vous aimez les études, que la recherche d'emploi se fait plutôt à la fin de la période toutes les études.
Ça dépend pour qui, parce que pour les plus qualifiés, c'est vrai qu'on voyait un petit impact au moment où les allocations arrivaient à la fin. Pour les plus qualifiés, c'était pas vrai pour les moins qualifiés. Qui, en revanche, eux, avaient clairement des difficultés à trouver. Et donc, du coup, je trouve d'ailleurs, j'allais en parler, des allocations chômage, la réduction de cette durée des allocations chômage. Là aussi, alors déjà, je trouve que ça met quand même un coup de canif dans notre contrat social. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système assurantiel. Hein, on cotise avoir droit. Donc, alors, c'est vrai qu'on dit, c'est généreux, mais le montant des cotisations est généreux aussi. Hein. Enfin, donc, c'est un système.
On n'a pas touché au montant des cotisations.
Non, bien sûr, mais je veux dire, le fait de considérer que ne pas regarder en plus ce qui se passe dans des domaines spécifiques où il peut y avoir des problématiques spécifiques de l'emploi, c'est quelque part considérer que les gens qui sont au chômage le sont de façon plus ou moins volontaire. Et ça, je trouve ça quand même dérangeant comme idée.
C'est pas le cas. Les évolutions qu'ont eues à partir de Mme El Khomri. Madame El Khomri, donc la fin Hollande, jusqu'à maintenant sur l'évolution de l'organisation et la régulation du marché du travail, ont quand même eu un impact. Là, les économistes sont obligés de constater qu'il y a eu 1,8 million de créations d'emplois nettes dans les 5 dernières années.
C'est non, mais là, on parle de c'est le virage de la...
Je suis d'accord, mais enfin, ça fait partie d'une logique qui a démarré il y a un peu plus de 5 ans.
Je soutiendrai, j'en avais dans l'idée, même si on ne peut pas suivre et cibler chaque euro.
Oui, mais moi, je parlais vraiment de cette réforme récente qui visait quand même un peu à dire. Que les chômeurs sont un peu entre guillemets volontaires et ça permet parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans des situations dans lesquelles on a beau réduire la durée des allocations, ça va juste faire plus de personnes au RSA ensuite.
Il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent de valider qu'une politique de l'offre finit par avoir des effets positifs. Souvenez-vous le badge de Gattaz, on s'est moqué de lui, sauf que le million d'emplois qu'il avait inscrit sur le badge, à la fin des 5 années, les millions d'emplois, il était là.
Il est plus, pour avoir une étude en profondeur, et notamment l'augmentation de l'emploi, on peut être pour ou contre, mais c'est beaucoup de l'apprentissage.
Alors, tous les pays
les calculent comme ça. Je vois pas pourquoi. Pour une fois qu'on a un bon résultat,
Je dis que du coup, il faut pas interpréter les chiffres du chômage à l'aune de ça.
Imaginons même qu'il y ait eu 400 ou 500 000 apprentis, il en reste 1,3 million qui sont des créations d'emplois.
L'apprentissage a été l'un des phénomènes 2022 qui peut effectivement venir en débat sur le recul du chômage. Merci d'avoir été là. Gervais Lorenzi, Céline Antonin, Michael Zemmour.